La dernière fois que nous avons partagé ensemble ce moment de culte, nous avons regardé ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Et nous avons découvert que nous sommes tous impliqués dans un combat cosmique énorme qui nous dépasse largement. Nous avons vu aussi que nous n'avons pas choisi d'être impliqués dans ce combat. Nous y sommes involontairement, que nous le voulions ou non. Et certains d'ailleurs sont impliqués beaucoup plus violemment dans ce combat que d'autres. Mais nous sommes tous confrontés à des forces qui nous dépassent. Et le texte nous disait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons lutté contre un ennemi dont la puissance nous dépasse largement. Nous avions vu aussi que ce combat dans lequel nous sommes impliqués n'est pas simplement une lutte collective de ceux qui se sont rangés avec le Christ contre le mal, c'est aussi une lutte individuelle. C'est ce sens que suggérait le mot « lutter » dans le texte. C'est un combat singulier, un combat de un à un vis-à-vis de l'ennemi. Et dans ce sens, l'apôtre Paul nous invitait à nous revêtir de toute la panoplie, c'est-à-dire de toutes les armes que le Seigneur met à notre disposition pour que nous puissions être vainqueurs. Cette panoplie est décrite par l'apôtre Paul, nous ne l'avons pas regardée en détail, j'aimerais la regarder un petit peu plus avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais m'intéresser en particulier à deux de ces armes qui nous sont données. Pourquoi est-ce que ces armes sont nécessaires? Eh bien, mes amis, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelles sont les attaques que le diable a prévues pour vous durant cette semaine passée. Vous ne savez pas que des gens ont prié pour vous pour que vous en soyez délivrés. Et vous n'avez peut-être pas pensé à ce que Jésus fait. Il a rappelé cela à Pierre. Vous vous souvenez de ce texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22 où Jésus disait à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Non seulement il y a parmi nous des gens qui prient les uns pour les autres, mais il y a aussi le Christ lui-même qui s'est engagé à prier pour que notre foi ne défaille pas. Il est donc important de nous revêtir de toutes ces armes, mais nous ne pouvons les revêtir que dans la mesure où nous nous sommes d'abord dépouillés des œuvres des ténèbres, nous disait l'apôtre Paul. Aujourd'hui, j'aimerais regarder ces sept armes que l'apôtre Paul nous présente dans ce chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, cette arme importante pour le chrétien d'aujourd'hui, cette arme dont nous avons besoin de nous revêtir comme d'une panoplie pour nous assurer une protection complète de la part de notre défenseur. La première de ces armes qui est présentée là est au verset 14, il est dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, pour ceinture. La vérité pour ceinture. Cette vérité que nous sommes invités de porter, ce n'est pas notre vérité à nous. Vous remarquez dans le texte d'Ésaïe, chapitre 11, Ésaïe, chapitre 11, au verset 5, le prophète nous rappelle que ce n'est pas notre vérité. Ésaïe, chapitre 11, verset 5, il nous est dit ceci, « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Mais de qui est-il question? Si vous regardez quelques versets plus haut, au début du chapitre, il est question du rameau qui sortira d'Isaïe. C'est une prophétie messianique. Il est question de Jésus. Jésus lui-même, ce saint de sa justice et de sa fidélité. Vous remarquez que cette vérité n'est pas la nôtre. Cette ceinture que porte le Christ, c'est cette vérité que lui-même déclare être. Vous vous souvenez, Jésus avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dans l'évangile de Jean, vous connaissez ce passage où Jésus disait à ses disciples, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou bien elle vous rendra libre. » Remarquez bien que c'est la vérité qui nous rend libre, jamais l'erreur. Et pour connaître la vérité, Jésus dit, il faut que vous demeuriez dans ma parole. C'est très important d'avoir cette vérité et de savoir que par elle seulement, nous pouvons être libérés. L'erreur ne libérera personne. Dans le psaume 40, au verset 11, il est dit, je retiens dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Ta vérité, ton salut. Je n'ai rien en moi à faire valoir. Cette ceinture, c'est celle encore qui m'est donnée pour ceindre mes reins et être prêt à la marche. Dans la même épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul va comparer notre expérience chrétienne à une marche avec Dieu. Pour bien marcher, pour marcher longtemps, on ceint ses reins. C'est le premier élément qui est mentionné ici dans notre passage. Prenez la vérité pour ceinture. Le deuxième qui suit juste après, au verset 14, il nous est dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Encore une fois, ce n'est pas notre justice. Regardez avec moi dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23, où il est question précisément de la justice de Dieu. Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23, au verset 5, il est écrit ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Voilà notre justice. Elle est en Dieu, elle est en Christ. Et nous sommes invités à nous en revêtir comme d'une cuirasse, de nous protéger par cette justice. Nous n'en avons pas en nous-mêmes. Le seul recours que nous ayons, c'est de recevoir celle que le Christ a et qu'il met à notre disposition. L'Éternel, notre justice. Dans le psaume 31, elle est présentée comme notre refuge. Psaume 31, au verset 2, il est écrit ceci. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice. Cette justice, c'est notre refuge, c'est cette carapace que le Seigneur nous propose de prendre parce que nous sommes vulnérables sans avoir reçu la justice de Jésus. C'est un cadeau qui nous est offert. C'est un vêtement qui nous est donné pour reprendre une autre image de la parole de Dieu. Nous sommes invités à nous en revêtir. Et le Christ la donne à tous ceux qui la veulent. La troisième de ces armes, si l'on peut parler ainsi, en tout cas, cette pièce de vêtement dans l'uniforme du soldat, se trouve juste après. Il est dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Dans ce mot « zèle » qui est ici utilisé dans le texte, se trouve l'idée d'être prêt à l'action. Mettez ces chaussures et soyez prêt à l'action. C'est une paraphrase, si vous voulez, de ce que ce texte est en train de nous dire. Il est un texte intéressant dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, où ce même thème est repris. Il est question de l'appel que Dieu adresse et la réponse que le peuple donne. Ésaïe, chapitre 5, nous lirons le verset 27. Ésaïe, chapitre 5, verset 27, dit ceci. « Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. » C'est la situation de celui qui est prêt à répondre à l'appel qui est adressé. D'ailleurs, si vous tournez juste une page ou si vous regardez quelques versets après, au chapitre 6, se trouve présenté l'appel de Dieu. Dieu adresse un appel et il dit « Qui enverrai-je » Et vous vous souvenez, Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi. » Mais pour aller, il faut avoir la ceinture attachée, il faut avoir revêtu cette cuirasse de la justice du Christ et il faut avoir ses chaussures attachées, prêt à agir, prêt à partir. Il y a dans cette image des chaussures bien attachées l'idée d'être prêt à remplir cette mission que le Seigneur nous donne. Toujours dans le livre du prophète Ésaïe, et cette fois-ci à l'autre bout de ce livre important, au chapitre 52, se trouve cette notion importante aussi de la mission à laquelle nous sommes appelés. Ésaïe, chapitre 52, au verset 7, il est dit ceci. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. » Dans notre langage du Nouveau Testament, comment est-ce que nous disons bonne nouvelle ? Évangile. Et ce texte qui est dans le livre du prophète Ésaïe est une sorte de béatitude, de bénédiction sur celui qui apporte l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent l'évangile, la bonne nouvelle. Et quelle est-elle cette bonne nouvelle ? C'est la bonne nouvelle du salut, telle que le texte nous le présente. Il y a donc dans cette image d'avoir les souliers bien attachés aux pieds, cette idée d'être prêt à remplir la mission que le Seigneur nous donne, et cette mission, c'est répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile de paix, écrit l'apôtre Paul. L'Évangile du salut, écrit le prophète Ésaïe. Ce qui est en fait la même chose, parce que celui qui reçoit le salut reçoit en même temps la paix en Jésus-Christ. La quatrième arme qui est présentée dans cette description se trouve au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Remarquez une chose, c'est que la foi n'a pas de pouvoir en elle-même. Ce qui a de la force, c'est celui en qui on va mettre notre foi. La foi elle-même est inopérante. Par contre, nous savons que celui en qui nous mettons notre foi a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, il nous est rappelé où est notre défense. Première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 4, il est écrit ceci. Première épître de Jean, chapitre 5, le verset 4 dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et si on s'arrêtait là, on pourrait se dire « J'ai la foi, par conséquent je suis vainqueur. » Mais il faut lire la suite. Verset 5 « Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Notre foi, c'est une foi qui devient puissante et agissante dans la mesure où c'est une foi en Jésus en tant que sauveur et libérateur. C'est par ce moyen-là, nous dit le texte, que nous allons pouvoir arrêter et éteindre les traits enflammés du malin. C'est par cette foi en Jésus-Christ et dans la victoire qu'il a acquise pour nous que nous pouvons être vainqueurs de l'ennemi dont la force nous dépasse. C'est un bouclier, c'est le moyen de faire en sorte que ces attaques ne nous atteignent pas. Le bouclier de la foi. Le cinquième élément dans cette description du soldat se trouve juste après au verset 17 où il est dit « Prenez aussi le casque du salut ». Cette acceptation de Jésus comme notre libérateur, comme notre sauveur, nous accorde aussi cette assurance et cette paix du salut. Quand on veut être sûr d'exterminer l'ennemi, on le frappe à la tête. Et il faut que notre tête soit protégée par le casque du salut. Vous vous souvenez de ce passage où l'apôtre Paul suppliait Dieu de le guérir. Ça nous est rapporté dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, où il est dit que l'apôtre Paul a supplié Dieu trois fois de le délivrer de cette épine qu'il avait dans sa chair. Et Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit. » Autrement dit, tu es sauvé, tu as l'essentiel, supporte le reste encore un petit peu de temps et je m'occupe du reste. Le casque du salut. Dans cette même épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul disait « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Comme tout le reste d'ailleurs de cet équipement du soldat chrétien, c'est un don de Dieu. Dans le psaume 18, cette même image est reprise. Regardez si vous le voulez avec moi dans le psaume 18, ce qui est écrit au verset 31. Psaume 18, verset 31 dit ceci. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et un peu plus loin, verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. C'est la même image. Cette image employée par l'apôtre Paul, il ne l'a pas inventée. Elle est déjà dans les Écritures. Ce casque du salut. Il est important pour avoir en nous cette assurance que quoi qu'il arrive, nous avons l'essentiel. J'aimerais m'attarder un peu sur les deux armes qui suivent et qui sont rapportées dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, au verset 17, il est dit « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'Esprit. Le mot qui est employé ici pour épée ne désigne pas ces longues épées que l'on présente généralement. C'est la makaira, une espèce de poignard assez court qui sert justement dans un combat de corps à corps, un combat singulier. Et ce mot qui est employé là est en harmonie avec ce que l'apôtre Paul disait au début de ce chapitre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et dans ce mot « lutter » se trouvait l'idée d'un combat de un à un. L'arme qu'il va donner ici à son soldat est typique du combat singulier, une arme courte qui permet d'immobiliser et d'arrêter l'ennemi. Quelle arme est-ce que l'apôtre Paul prendrait aujourd'hui pour représenter ce que fait la makaira? Et j'aimerais vous suggérer, ou vous pourriez peut-être trouver autre chose, que le taser est une arme que l'apôtre Paul pourrait incorporer aussi à l'équipement de son soldat chrétien. Le pistolet électrique dont on a tant parlé ces derniers temps. Vous pourriez aller voir sur Internet ce que ça fait. Ils ont fait l'expérience sur un taureau. Impressionnant. Le taureau tombe tout de suite, d'un coup. Mais lorsque l'effet est terminé, alors vous avez intérêt à courir vite, parce que celui qui lui a fait ça se fait charger immédiatement. Mais c'est capable de renverser un taureau d'un coup. Puissant. Une décharge électrique qui ne va pas tuer l'ennemi, mais qui va le neutraliser, qui va le paralyser, qui va l'immobiliser dans son action. C'est ce que l'apôtre Paul présente ici. Une arme qui va permettre de neutraliser, d'immobiliser l'ennemi. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que l'épée de l'esprit, dit l'apôtre Paul, c'est la parole de Dieu. Alors nous sommes habitués dans le Nouveau Testament à ce mot qui est devenu populaire, le logos, la parole. L'apôtre Jean commence son évangile de cette manière-là. Il utilise le logos en faisant référence au départ, à l'origine. Mais ce n'est pas ce mot-là qui est employé dans le texte ici. Ce n'est pas le logos dont il est parlé. Il est parlé du rhéma. Cette arme de Dieu, ce taser, c'est le rhéma de Dieu, c'est-à-dire non pas la parole dans sa globalité, mais une parole particulière et spécifique de Dieu. Logos va être utilisé pour parler de la parole d'une façon générale. Rhéma va être utilisé pour parler d'une parole précise en particulier. Ce taser qui va être destiné à paralyser l'ennemi, à l'arrêter, à l'immobiliser, c'est une parole précise de la parole de Dieu. Souvenez-vous, lorsque le diable va aller dans le désert pour tenter Jésus, Jésus va répondre, « Il est écrit. » Mais suite à cela, il va citer la parole de Dieu. « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est de cette manière-là que Jésus va paralyser, arrêter l'ennemi. Il va ramasser un coup d'électricité du taser de Jésus par 3 reprises. Et le texte nous dit, souvenez-vous, il le quitta pour trouver un moment plus favorable. Le diable n'a pas aimé de prendre 3 décharges. Mais 3 décharges qui étaient des rhémas de Dieu, c'est-à-dire en réalité des paroles précises que le Christ lui a envoyées pour l'arrêter. Et c'est exactement ce que nous sommes invités à faire aussi. Immobiliser, arrêter l'ennemi en utilisant sa parole. Maintenant, nous comprenons avec cela qu'il est nécessaire d'avoir nos armes préparées. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir dans notre mémoire ces rhémas de Dieu, ces paroles de Dieu qui sont nécessaires pour arrêter l'ennemi qui nous attaque, pour le faire taire, pour l'immobiliser, pour le stopper. Mais comment est-ce que je vais savoir ce que je dois dire ? Jésus avait répondu déjà à cette question à ses disciples dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10. Matthieu chapitre 10, j'aimerais regarder avec vous les versets 19 et 20. Le contexte dans lequel Jésus donne ses paroles, c'est un contexte un petit peu particulier où Jésus leur dit qu'un jour vous allez être amenés devant les tribunaux, vous allez être amenés à rendre témoignage devant les instances de ce monde. Mais Jésus essaie de le faire comprendre que l'ennemi n'est pas le juge là qui nous attaque, l'ennemi n'est pas celui qui nous a traînés devant la justice ou devant les magistrats, l'ennemi c'est celui qui a poussé celui-là à le faire. Et dans ce sens, Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10 et au verset 19, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Mais comment est-ce que je vais savoir ce que je dois dire ? Il faut lire avec ça un autre passage. Je ne veux pas de ce texte tirer l'idée « Ah, mais j'ai pas de problème alors. Dans ce cas-là, il peut m'arriver tout ce qui peut m'arriver. » Le Seigneur va mettre dans mon esprit les paroles qu'il faudra que je dise. Il faudrait pour ça que nous lisions aussi ce qu'il est dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 26. Jésus va préciser ce que nous venons de lire. Évangile de Jean, chapitre 14 au verset 26. Et vous vous souvenez que dans Jean 14, après avoir annoncé sa deuxième venue, Jésus parle du Saint-Esprit qu'il veut donner à ses disciples en attendant. Au verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Autrement dit, si nous voulons que l'Esprit nous rappelle quelque chose, il faudra que nous l'ayons appris. C'est dire à quel point il est pour nous important de saturer notre esprit de la parole de Dieu. Saturer notre esprit de ces rhémas de Dieu, de ces paroles qui sont chargées de la puissance même de celui qui est la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui de multiples moyens pour saturer notre esprit de la parole de Dieu. Ceux qui sont comme moi en voiture pendant de nombreuses heures pendant la semaine, vous avez la possibilité de saturer votre esprit par la parole de Dieu qui est enregistrée et que vous pouvez passer dans vos voitures. Pendant que vous êtes en train de faire un travail ou quoi que ce soit, pendant que vous faites votre exercice physique, au lieu d'écouter je ne sais quelle musique du monde, vous pouvez écouter les enregistrements que nous avons de la parole de Dieu. C'est une manière de saturer notre esprit de la parole de Dieu. Et puis il y a aussi le moyen tout simple de l'apprendre. Écrire les textes, les inscrire dans notre mémoire, de façon à ce qu'ils soient stockés, prêts à être utilisés. J'étais impressionné, peu avant que ma mère ne décède, de voir à quel point elle avait emmagasiné un nombre incroyable de textes des Écritures. Elle n'était pas loin d'un siècle d'âge, mais elle était capable de réciter des psaumes entiers par cœur. Et elle faisait des jeux bibliques. Elle était capable de vous donner les noms des filles de Job. Elle était capable de vous donner une foule d'indications bibliques qui étaient prêtes, disponibles pour être utilisées. Et j'ai été impressionné à quel point son esprit était imbibé, imprégné de la parole de Dieu. Et je me pose la question, faudra-t-il que j'attende d'avoir presque 100 ans pour connaître la parole de Dieu et être imprégné de ces rémas de Dieu? J'en ai besoin maintenant. J'en ai besoin maintenant parce que c'est aujourd'hui, c'est demain que le diable met sur mon chemin toutes ces embûches pour me faire tomber. Ainsi, nous sommes invités par l'apôtre Paul à avoir disponible dans notre esprit ces rémas de Dieu, ces paroles spécifiques qui servent à paralyser, à neutraliser l'ennemi. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, se trouve cette parole de l'apôtre Jean. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14, il est dit ceci. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Comment est-ce que vous avez vaincu le malin? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Alors, quel que soit notre âge, que nous soyons jeunes ou que nous soyons moins jeunes, nous serons forts parce que la parole de Dieu demeure en nous et qu'elle soit disponible pour servir de pistolet électrique lorsque l'ennemi veut nous atteindre. Maintenant, il y a une dernière arme que l'apôtre Paul présente dans Éphésiens chapitre 6 et qui ne fait pas partie directement de la panoplie décrite ici dans ce texte, mais c'est la septième arme qui est inscrite au verset 18. Il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». La prière. Mais ça, on le savait. La prière est une arme. Mais vous avez remarqué dans notre texte ici, c'est une prière particulière. Il est dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Ce passage me rappelle celui où l'apôtre Paul invite les Thessaloniciens à prier sans cesse. En tout temps, toujours, en toutes circonstances. Mais il dit ici, prier par l'Esprit. Ça ne veut pas dire prier avec les bras en l'air. Ça ne veut pas dire prier en disant toutes sortes de choses que personne ne peut comprendre. Ça ne veut pas dire prier en se roulant par terre. Lorsque Jésus s'approchait de quelqu'un, il ne le jetait pas par terre. Jésus a toujours relevé ceux qui étaient par terre. Il ne les a jamais jetés par terre. Par conséquent, l'Esprit de Dieu ne va jamais vous jeter par terre. L'Esprit de Dieu va vous relever. Il va vous élever. Qu'est-ce que ça veut dire, prier par l'Esprit? Le christianisme d'aujourd'hui a été voir dans le monde païen ce que veut dire prier par les esprits, mais l'autre esprit. Ce dont il est question ici, c'est du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul invite à prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire à prier en harmonie avec ce que le Saint-Esprit nous dit, en harmonie avec ce que le Saint-Esprit inspire, en harmonie avec ce que le Saint-Esprit a déjà inspiré. Et vous vous souvenez comment l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui prétendent parler ayant le don de prophétie, et il leur dit, mais vous ne parlez pas de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit si vous parlez différemment de ce que le Saint-Esprit a déjà inspiré aux autres dans le passé qui ont été reconnus comme des prophètes. Priez par l'Esprit, c'est être capable d'utiliser les rémas de Dieu dont on a parlé tout à l'heure pour adresser à Dieu nos prières. C'est utiliser ce que le Saint-Esprit a déjà inspiré dans sa parole à ses prophètes pour présenter à Dieu nos prières. Le pasteur Derek Morris raconte ce qui lui est arrivé un jour, une expérience dans laquelle il reconnaît qu'en réalité son fils lui a appris une bonne leçon. Il était parti un jour faire du vélo avec son garçon qui avait 10 ans. Et Derek Morris disait qu'il a découvert en faisant du vélo combien il y avait de chiens dans le quartier. Il n'aime pas les chiens qui courent après les cyclistes. Et ce jour-là, il était avec son garçon à faire du vélo et tout d'un coup, il a vu du coin de l'œil cette grosse masse noire qui commençait à le rattraper. Il a vérifié et il a vu là un gros chien noir. Il a vu ses dents, il a eu peur. Et il a commencé à pédaler de toutes ses forces. Il a pédalé, pédalé. Il y avait son garçon derrière lui, il était devant. Et il a pédalé, poussé par l'adrénaline. Et finalement, après un bon moment, il a réussi à semer le chien. Le chien a abandonné la course. Et il s'est dit, ouf, enfin. Et puis tout d'un coup, il s'est souvenu qu'il y avait son fils derrière. Il s'est retourné, il a posé son vélo. Et qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu derrière lui, à une certaine distance, son garçon qui pédalait gentiment et le chien qui était assis au bord de la route et qui regardait son garçon passer en vélo, tout tranquillement, comme si de rien n'était. Quand son garçon est arrivé près de lui, il a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait à ce chien ?» Alors il a dit simplement « Ben c'est pas dur. J'ai dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Il a dit aussi, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il lui a dit, le chien s'est assis. Derek Morris dit qu'il a appris une leçon ce jour-là de son fils, qui avait utilisé le taiseux de Dieu pour faire taire l'ennemi qui attaquait par l'intermédiaire de ce chien. Et c'est une illustration que je trouve intéressante. Nos prières par l'Esprit, reprennent dans la parole puissante de Dieu ce que l'Esprit a déjà inspiré aux prophètes pour que nous puissions renvoyer à Dieu ses promesses et ses propres paroles, lui demandant de les accomplir pour nous maintenant dans notre vie. Prier par l'Esprit, ce n'est pas se rouler par terre en disant des choses incompréhensibles. Prier par l'Esprit, c'est utiliser les rhémas de Dieu, la parole de Dieu, pour dire à Dieu, « N'as-tu pas dit cela, Seigneur ? Accomplis-le maintenant pour moi. » Ce ne sont pas simplement des prières pour la protection que nous pouvons présenter à Dieu. L'apôtre Paul disait toutes sortes de prières. Nous pouvons présenter à Dieu des prières de protection et dire, « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Mais nous pouvons aussi présenter à Dieu des prières de remerciement et dire, « Que ceux qui aiment ton salut disent « Exalté soit l'Éternel ». Nous pouvons aussi présenter à Dieu des prières de confession et dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». L'apôtre Paul disait « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications ». Et il continue en disant « Veillez à cela avec une entière persévérance ». Et prier pour tous les saints. La prière d'intercession. Et je vous disais tout à l'heure, vous ne savez pas quelles sont les attaques que l'ennemi a prévues pour vous cette semaine. Mais vous ne savez pas non plus qu'il y a des gens qui prient, selon l'indication de l'apôtre Paul, pour tous les saints, de sorte que l'ennemi soit retenu de les attaquer et de les faire tomber. La prière d'intercession. Il continue dans ce texte au verset 19 en disant, « Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Nous sommes invités ici à prier pour ceux qui sont en première ligne de la bataille, pour les pasteurs, pour les anciens, pour ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, parce que ce sont eux que le diable attaque en premier lieu. Parce que le diable sait que s'il fait tomber ce pasteur, que s'il fait tomber cet ancien, que s'il fait tomber ce directeur de jeunesse, il va affecter beaucoup de gens par cette défaite. Et c'est ceux-là qui sont attaqués. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aussi, « Priez pour moi, priez pour vos dirigeants, priez pour ceux qui ont charge de l'Église. » À tous les niveaux, priez pour eux parce qu'ils sont en première ligne pour être attaqués par l'ennemi. Nous sommes impliqués dans un combat cosmique. Un combat que nous n'avons pas choisi, un combat dans lequel nous sommes obligatoirement. Mais un combat dans lequel nous ne sommes pas perdants obligatoirement. C'est un combat dans lequel Jésus veut nous voir vainqueurs. Il veut partager avec nous les armes qui étaient les siennes. Et nous en avons vu 7 ce matin. Sa parole est puissante. Et nous sommes invités à l'utiliser pour immobiliser l'ennemi dans les attaques qu'il tourne contre nous. Dans le temps dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, nous pouvons discerner le redoublement des attaques de l'ennemi. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Nous devons donc nous attendre à voir dans nos vies, dans l'Église, dans notre entourage, une intensification des actions de l'ennemi pour faire tomber les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer cette marche chrétienne sans avoir les armes de Dieu. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, nous invite à nous revêtir de toute la panoplie de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce pouvoir, il veut le mettre à notre disposition pour que nous soyons aussi vainqueurs dans la lutte contre l'ennemi. Et il nous dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen.